Ah, on disait que notre réalisateur est dedans, dansait au son de cette musique envoûtante du dimanche matin, les dessous de l'immobilier. 11h38, la question, Mélanie, aujourd'hui, là, est-ce que vous avez peur d'acheter trop vite, d'aller trop vite ou de vendre trop vite aussi?
Ah, ben ça, oui.
Tu nous as donné des exemples de vendeurs qui reviennent sur leurs décisions.
Ah
tantôt.
Oui, Mélanie, je veux plus vendre.
Oui, parce que où je vais aller après? Oui. Et on a plein d'appels, on va en prendre un tout de suite. Il y a Raymond qui attend depuis longtemps. Salut Raymond.
Oui, bonjour. Moi, c'est plus à propos de l'arpentage. J'ai acheté il y a un an. Le vendeur avait fait arpenter. Là, moi, je voudrais mettre une clôture, mais je me rends compte qu'il n'y a aucune borne. J'ai appelé l'arpenteur, il dit, « Ah, moi, il faudrait que je revienne, puis que je reborne ton terrain. » Là, il me rechargerait un 1200 $. Est-ce que c'est une pratique normale?
Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Il n'y a pas de borne sur votre terrain, puis il est allé l'année passée?
Oui, j'ai acheté l'année passée. Mais lui, il dit, quand j'ai arpenté, moi, on m'a juste demandé arpenter. Fait qu'il a mis aucune borne.
OK.
Est-ce que c'est une pratique normale?
Je pourrais pas vous répondre, vraiment, Raymond. C'est, d'habitude, j'ai pas mal de réponses, mais là, moi, j'ai jamais entendu de cas pareil. Donc, peut-être appeler, justement, appeler l'arpenteur ou vérifier avec un autre arpenteur. Voir si... Mais moi, personnellement, normalement, quand vous avez votre certificat de localisation, normalement, vous êtes en mesure de savoir où est la limite exacte de votre terrain. Vous êtes censé pouvoir installer une clôture. T'sais, votre certificat est récent en plus. Donc, peut-être simplement le rappeler qui vous donne plus de détails à cet effet-là, Raymond.
Parfait. Bonne chance, Raymond. Marie, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. Moi, avant de vendre ma maison trop vite, j'aurais une question pour vous deux. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu des fissures à ma maison et puis j'ai fait venir un inspecteur en bâtiment puis il m'a dit il faut que tu les fasses remplacer. Alors, je les fasse réparer. Je les ai fait réparer. Et puis, il dit quand j'avais une fissure d'un côté, puis il dit quand on a une fissure d'un côté, normalement, ça peut arriver qu'on en a un autre. Puis, effectivement, j'ai fait réparer les deux côtés de la maison. Et puis, ils ont changé le drain français. Puis, ils se sont aperçus que j'étais construit sur un terrain argileux. Alors, c'était tout un travail. Moi, ma question, c'était si je veux vendre, est-ce que ça va me causer un problème d'être sur un terrain argileux?
Ben, écoutez, l'important, c'est que les gens achètent en connaissance de cause. Puis vous, vous avez pris les mesures, vous avez pris toutes les... T'sais, moi, d'après ce que vous me dites rapidement, Marie, là, vous avez toutes vos factures de ce que vous avez fait.
Oui,
vous...
oui.
C'est
oui.
Ça. L'important, c'est de tout déclarer dans la déclaration du vendeur que les gens achètent en connaissance de cause pour vous protéger. Je crois pas que ce soit nécessairement un problème en ce moment, surtout que vous avez fait des travaux majeurs là pour que votre maison soit en bon état. Alors moi,
mais est-ce qu'un terrain sur un terrain argileux, ça peut bouger encore? Là, j'ai fait réparer de gauche droite. Est-ce que ça peut rebouger encore?
Écoutez, ça peut avec le temps, c'est possible, mais écoutez, c'est à surveiller. C'est vraiment à surveiller, puis ça, vraiment un expert. Oui, savez-vous, il y a des propriétés qui peuvent bouger durant des années. Il y en a qui bougent dans les premières années, après c'est terminé. Donc, c'est vraiment nuance. Oui, c'est clair qu'un sol argileux va bouger bien plus qu'un sol, Jeffrey. Il y a des propriétés qui sont construites là sur le roc, là, c'est sûr que c'est bien différent. Alors oui, il y a une possibilité de mouvement encore, mais bon, on essaie de stabiliser la propriété. Puis éventuellement, on surveille, mais il faut déclarer. Puis à ce moment-là, on se protège. On protège toutes les parties.
Parfait. Merci, Marie. Claude, bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Très bien. On vous écoute.
Bon, regardez, premièrement, je veux vous remercier, vous féliciter pour cette émission tellement instructive. Ça rend service, excusez, à beaucoup de gens.
Merci.
Ma question, c'est pas tout à fait exactement sur le thème que vous avez aujourd'hui, mais disons que nous, on est dans la belle région de Belœil à Montérégie et on songe sérieusement à changer de place, en aller en Chaudière-Appalaches. Mm-hmm. Et ce qu'on a, nous, là-bas, c'est que, oui, on consulte beaucoup les sites d'agents immobiliers et ainsi de suite, mais par contre, la question vraiment que j'ai pour vous, c'est si on a des yeux et des oreilles partout là, dans cette région-là, si on trouve, mettons, des gens qui s'apprêtent à vendre leur maison, à l'offrir sur le marché, mm-hmm. mais ils l'ont pas fait encore, et qu'on parle avec ces gens-là, puis qu'on réussit à s'entendre sur un prix de vente, est-ce que la procédure à faire, est-ce que c'est vraiment compliqué ou c'est aussi simple que passer chez le notaire, pareil comme avec un agent immobilier?
Ben, écoutez, c'est sûr que si vous avez jamais fait ça, bon, il y a deux options. Soit vous le faites vous-même, vous remplissez des formulaires là maison un peu là, vous faites une entente entre vous. Moi, je vous suggère, vous pourriez quand même faire appel à un courtier pour qu'il règle la paperasse. Tu sais, c'est pas la oui. même chose qu'un contrat de vente ou tout ça. Il y a des courtiers qui font ça là. Vous pouvez très bien prendre un courtier juste pour régler l'aspect légal puis vous assurer que tout le monde est protégé là. Ça vous coûtera pas la même chose là qu'une mise en marché. Et puis, je pense que les deux parties pourraient être protégées. Puis vous incluez ça dans le prix offert. Là, je pense que c'est un investissement à faire parce que le courtier va faire remplir une déclaration du vendeur au vendeur. Tu sais, c'est très important. On a beau avoir un bon contact entre les gens. Moi, je pense que c'est un gros achat et vous devez tout le monde être protégé. Donc, les documents doivent être bien remplis. Le courtier aussi a une assurance responsabilité. Donc, s'il arrive un problème, il va pouvoir accompagner aussi les gens là, dans cette transaction-là. Donc, oui, vous pourriez le faire sur un papier, un autre formulaire. Oui. Que vous utilisez. Mais moi, je vous suggère, faites vos recherches, essayez de trouver un courtier. Vous lui dites, écoutez, moi, je vais acheter cette maison-là, j'aimerais ça te mandater pour me représenter puis rédiger la documentation. Et il y en a qui vont le faire pour vous. Et ça ne vous coûtera pas la même chose qu'une mise en marché complète. Là. Donc,
oui. Une commission, là, ça devient comme un salaire qu'on lui paye ou des frais professionnels.
Comme des honoraires, Claude. En fait, il y a des courtiers qui vont vous charger des honoraires pour remplir les documents, suivre la transaction et vous amener à bon port chez le notaire. Comme ça, les deux parties sont protégées.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Parfait, Claude. 11:44. Il y a tellement de questions qui rentrent là, sur les textos. Vous êtes nombreux au téléphone. On va essayer de faire un marathon, un dernier blitz d'appel après la pause dans un petit instant. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Est-ce que vous avez peur d'aller trop vite en affaires dans le marché immobilier en ce moment? On revient après ceci.